I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Littérature et bière glacée.
Grand Flore Café.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grand Flore Café par Hugues Robert.
Bienvenue au Grand Flore Café. On est heureux de vous retrouver pour poursuivre notre travail sur la rentrée littéraire qu'on a amorcé la semaine dernière. Mais ce soir, émission en partie spéciale, vous pourrez dire, est-ce qu'on va parler de littérature ? Ben oui, je vous rappelle que depuis que Bob Dylan a eu le prix Nobel de littérature, la chanson et les textes de chansons font partie de la littérature. Il y a déjà des esprits chagrins qui continuent à en douter. Ce n'est pas mon cas. Donc je suis très heureux en fait, d'évoquer la mémoire ce soir de Nino Ferrer en compagnie de ses fils, Arthur et Pierre Ferrari, qui sont avec nous sur le plateau. Ce soir même débute en fait une belle exposition à Grand Contrôle que je vous encourage à venir voir massivement, consacrée à Nino Ferrer, donc, qui nous a quittés il y a 20 ans maintenant, à quelques semaines près. On va évoquer sa mémoire, ses concerts, l'époque et puis une partie de sa carrière, donc en compagnie de deux personnes qui le connaissent particulièrement bien. Un petit rappel, Nino Ferrer, et c'est peut-être votre cas comme le mien, est un artiste qui a eu une carrière longue, qui a écrit énormément de chansons, de textes, de musique. Et pourtant, c'est vrai qu'il est connu principalement du grand public pour une poignée en fait, de chansons à succès, correspondant plutôt à son début milieu de carrière, et qu'ensuite... Tout en restant un personnage extrêmement connu, il n'a pas réussi à renouer avec le succès qu'il avait eu, notamment avec le Sud. Une chose effectivement, qui peut miner peut-être de l'intérieur un artiste. Et on va également évoquer ce point. Donc peut-être, je ne sais pas qui va se lancer à l'eau entre Arthur et Pierre, d'évoquer pour vous en fait, cette exposition, comment elle est venue
Bonjour. Donc cette exposition, elle est venue. Bon, l'idée était de montrer justement autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre de Nino, à savoir effectivement ces 3, 4, 5 tubes. Et donc pour ce faire, j'ai fait en fait une expo dans une expo. Enfin, c'est un truc à tiroir. Il y a une première partie dans laquelle il y a tout ce qui est le personnage public avec effectivement les affiches, les disques, les articles de presse, etc. de façon très chronologique. Et après, on peut rentrer dedans complètement parce qu'il y a énormément d'articles donc qui permettent de découvrir plus le personnage, surtout dans la deuxième partie justement de carrière après le Sud. Il y a une partie un peu avant où il est devenu beaucoup plus libre et progressif en musique. Et après le Sud, où il y a eu un clash et il est parti de Paris et du showbiz et du système, où là, il était complètement indépendant et seul. Bon, et la deuxième étape dans cette expo, c'est plus sur sa peinture, qui, elle, bon, est connue d'un public d'initiés. Et dans cette partie de sa création, qui est toujours chronologique, on voit aussi toutes ses premières œuvres et tout ce qu'il a fait aussi après, et ses dernières œuvres quand il s'est attaché à la gravure. Donc c'est une autre approche encore de l'expression, une autre appréhension du trait. Enfin, c'est extrêmement intéressant aussi de voir l'évolution comme ça. Et dans cette deuxième salle, il y a une troisième partie qui est une vitrine, qui est là, une vitrine de 6 mètres, dans laquelle on est vraiment dans la frise chronologique de l'homme. Donc c'est des objets, des souvenirs, des photos personnelles, plein de petits objets et tout ça. Et là, on rentre vraiment dans le cœur de la problématique, si je puis dire.
Non, parce qu'une des choses fascinantes, enfin, quand on se penche effectivement sur les détails peut-être les moins connus, en tout cas, du grand public de la vie de Nino Ferrer, c'est effectivement ce côté à la fois très profondément ancré dans des lieux, en fait, hein, des maisons qu'il a achetées, qu'il a fait aménager, dans lesquelles il a eu ses studios d'enregistrement, mais en même temps, le côté où il a pu, à certains moments, on le mentionnait en 1970, quitter assez, enfin en 1967, pardon, quitter assez brutalement finalement la France et partir, pas en exil bien entendu, mais enfin passer 3 ans en Italie.
Oui, il est parti en Italie pour mener une carrière aussi avec une célébrité très prononcée, puisque c'était son pays maternel. Et il a eu un succès fou là-bas, mais très vite il s'est rendu compte que c'était la même chose, même pire, vu le fonctionnement italien et le show business italien. Donc il est revenu en France pour continuer et essayer de continuer sous un autre angle, de ne plus être justement ce faiseur de tubes qu'il a été en France très rapidement avec cette poignée de tubes qui était un peu plus de 3-4, je pense une bonne dizaine de tubes justement, bon, d'une façon humoriste et yéyé. Alors qu'il était un artiste complexe et multifacette et qu'il commençait à, avec tous les moyens technologiques de l'époque de production, de pouvoir commencer à faire des expériences et à travailler sur une autre forme de production, à faire des albums, des concepts, des albums qui ne se faisaient pas à l'époque aussi. Et c'est là qu'en restant intègre avec lui-même et en refusant de s'attacher au système, le système s'est du coup retourné contre lui, enfin a fermé les portes, et ce qui fait qu'il est devenu comme un artisan tout seul à effectivement faire ses studios dans ses maisons et tout, mais donc à devoir vraiment lutter pour après faire écouter ses disques et rendre beaucoup plus complexe sa popularité.
Ça pointe un des éléments, enfin, qui a toujours été sans doute une des caractéristiques de l'industrie, hein, de la musique en tant qu'industrie justement et pas en tant qu'art. C'est ce que vous pointez, c'est que les producteurs ont tendance à demander davantage du même, de ce qui fonctionne, et que quand l'artiste, effectivement, lui, a envie d'explorer autre chose, et notamment ce moment au début des années 70 où il y a un vrai appétit pour aller vers ce qu'on a appelé effectivement du prog rock, enfin, avec les influences jazz extrêmement marquées qui étaient les siennes, où en fait c'est tellement différent de ce qu'il faisait avant qu'on sent que. Il y a une opposition frontale, quoi. Là.
Bien sûr, le système, toutes les grandes maisons de disques et les majors aujourd'hui, c'est risque zéro. Donc le risque zéro, c'est d'utiliser l'artiste ou n'importe quelle production dans le même sens, toujours dans le même sens, et surtout pas ne la faire déborder ou déraper pour un risque d'économie.
Et ça, donc, c'est quelque chose dont il a, semble-t-il, enfin, bien entendu, souffert, mais qu'il avait su se constituer une sorte de bulle de liberté, en fait, justement, en partie grâce à ses succès et à la façon de les utiliser, pour, en effet, profiter, bien avant la lettre, hein, de studios d'enregistrement personnel, de pouvoir expérimenter un peu à sa cadence et à son envie, sans avoir besoin du label, nécessairement, et des gros moyens. Ou est-ce que c'était plus compliqué que ça, en réalité ?
Non, ce succès-là, ces tubas, lui ont permis de lui donner cette liberté toute sa vie, jusqu'au bout de sa carrière. Et ça, je l'ai entendu dire, et il avait une reconnaissance, effectivement, pour cette raison-là, d'avoir eu le choix de produire comme il voulait et quand il voulait.
Alors après, si je peux me permettre, il y a le fait qu'il ait pu produire lui-même en autoproduction, qu'il était auto-éditeur, autoproducteur, il est auteur, compositeur, interprète, donc il gérait totalement la chaîne totale, quoi, de A à Z. Mais ce qu'il ne gérait pas, c'était la diffusion. Et après, vu que justement, il ne rentrait pas dans le système et dans la chaîne, il était bloqué et il n'était pas diffusé.
Tout à fait.
Oui, d'autant plus que dans les années 70, effectivement, on n'est pas du tout dans le contexte d'aujourd'hui où les moyens de diffusion se sont fragmentés, ont explosé, mais du coup, ont donné une liberté supplémentaire. Pas nécessairement avec le soutien économique, on sait, parce que ce n'est pas parce qu'on diffuse nécessairement cette fois qu'on obtient le fruit économique. Mais c'est vrai que les années 70, ce n'est pas une époque de grande liberté. Pour l'auditeur final, en fait, qui n'a pas un accès très facile.
Ouais, absolument. Et je reviens sur justement les tubes, et quand il était en Italie, quand il est parti justement pour sortir de ça, et pour, malgré lui, y revenir, quand il est devenu très célèbre là-bas, il avait une émission de télé et tout. Et donc son album concept qu'il a fait quand il était en Italie, qui s'appelle Rats and Rolls, c'est marrant parce que c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. En fait, il fait un album totalement indépendant, totalement progressif, dans lequel il y a un des morceaux qui va le faire, en fait, un peu bannir d'Italie, parce qu'un morceau qui est rejeté par les institutions, surtout religieuses. Et ce morceau, dans sa version française, va devenir un énorme tube en France. va devenir La Maison près de la Fontaine. Et c'est un morceau qu'il a complètement...
C'est celui qu'on va écouter tout à l'heure.
Ouais, celui qu'on va écouter tout à l'heure. Ouais. C'est assez étonnant de voir que l'indépendance et le côté transgressif et progressif de l'artiste, en fait, va après, pouf, redevenir... Enfin, ça fait une boucle. Quoi. Je ne sais pas si c'est clair ou pas, mais je trouve ça assez intéressant.
J'avais une question, alors qui est peut-être naïve, mais c'est vraiment de la curiosité personnelle, si vous pouvez y répondre. Il y a toujours eu des hypothèses, enfin, et donc moi je ne connaissais pas assez la vie de Nino Ferrer, mais est-ce que ces 13 premières années, je crois, passées en Nouvelle-Calédonie, est-ce que ça a été une influence durable pour lui, quelque chose d'important, ou finalement pas tant que ça, parce qu'après tout il était très jeune. Enfin...
Vous avez dit 13 ?
Oui.
Non, ce n'est pas 13, hein, c'est quelques années juste.
Ah, d'accord.
C'est 2-3 années, je crois, dans vraiment la petite enfance, et après il est retourné une fois un an, mais à l'âge de 20 ans.
Ouais, quand il a fait ses peintures, justement, voilà. Quand il a fait son voyage, parce que sa grand-mère, sentant sa fin arrivée, lui avait offert un billet, il prenait jamais l'avion, mais de bateau. Et il avait pris tellement le temps de s'arrêter partout, surtout dans les Tahiti, dans les îles, qu'il était arrivé, sa grand-mère était morte.
Oui, c'est vrai que j'avais lu ça, je crois que ça devait être une confidence, enfin, qui n'est pas un secret, hein, mais de Richard Bennett, qui disait qu'effectivement, une des caractéristiques de Nino Ferrer par rapport à certains artistes qui étaient un peu de sa génération ou un peu plus tardifs, mais qui, quand ils souhaitaient utiliser des musiciens d'un endroit, en fait, avaient tendance, eux, à aller se déplacer à cet endroit-là, que Nino Ferrer ne le faisait pas parce que ça supposait de voyager en avion, ce qui était pour lui absolument insupportable. Enfin,
c'est inenvisageable, il n'a pas pris l'avion. Ouais.
Ah oui,
ouais, et il a refusé, je crois que Richard Bennett lui avait trouvé un contrat, je crois, enfin je sais plus si c'est ça, Arthur, tu me diras si je me trompe, aux États-Unis, il n'a pas voulu y aller.
Oui, non, c'était une expo de peinture, je crois.
Non.
Envisagé, non
Non, je crois que c'était un contrat, enfin bon, bref, mais en tout cas, oui, ça lui, quand bien même ça lui fermait des portes, c'était hors de question.
Le lien, en fait, alors la peinture, c'est quelque chose, vous disiez, qui est venu plus tardivement, ou c'est quelque chose qu'il pratiquait en fait dès le début, mais plus comme un jardin personnel, enfin.
Dès le départ, dans les années 50, donc il avait 20 ans. Il a commencé toute une série de toiles de gouache qui sont exposées ici, qui n'ont rien à voir avec la deuxième partie des années début 80.
Ouais, moi je dirais qu'il y a trois parties. Il y a vraiment un tout petit début dans les années fin 50. Donc là, il essaye plusieurs techniques, de l'huile, il fait de la gouache épaisse et tout. Et après, il y a une autre partie dans les années 60, en Nouvelle-Calédonie, là où il y a un beau travail sur les couleurs et tout, qui est hyper intéressant. Et après, effectivement, il y a ce gros break jusqu'à la fin des années 80, enfin 90, au début 90.
On disait une des choses, moi, qui est frappante, je trouve, chez Nino Ferrer, c'est quelqu'un qui incarne deux pôles effectivement complètement opposés des années 60-70. C'est à la fois la musique très, justement, enfin, la musique et l'art très fabriqués pour l'ORTF, pour la mécanique un peu monolithique de la variété française, et en même temps, tout autour de ça, une formidable liberté dans la façon d'utiliser les variétés françaises, j'ose dire un peu contre elles, bon, avec un prix à payer visiblement. Est-ce que c'est quelqu'un donc, qui, au-delà de sa revendication de liberté de créateur, avait une volonté aussi effectivement d'être authentiquement subversif, je dirais, par rapport à un système qui tend à énormément canaliser, cadrer, beaucoup plus encore à l'époque que maintenant?
Oui, je pense que oui, il y avait une volonté. Je pense qu'il sortait d'un environnement qui était dont moi personnellement je peux absolument pas me rendre compte. J'ai pas été chez les jésuites, j'ai pas vécu la guerre, et je pense qu'il sort d'un milieu très bourgeois, très strict, très dur, dans une société qui devait pas être drôle tout le temps, à mon avis. Et je pense que oui, il y a eu cette volonté de tout casser, de tout d'être vraiment de donner un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Enfin, dans les années 70, je pense que c'était vraiment une recherche, hein, d'aller contre ce système-là, musique, les yéyés, justement, il n'en pouvait tellement plus d'être associé à ça. Alors il s'en est servi, comme vous le dites, très bien, très justement, et il s'en est servi pour tout casser, quoi.
Oui, enfin, des personnages importants, enfin, de ces années-là, qui ont eu aussi, enfin, alors, sous d'autres formes, mais qui ont eu ce rejet, enfin, on pense à des gens comme Antoine, des gens comme qui, effectivement, à un moment donné, disent « je ne peux pas continuer à... » à faire ce qu'on me demande de faire ou ce que la mécanique financière voudrait que je fasse pour continuer à produire. C'est pas moi, en fait.
Bien sûr, voilà. Il n'était pas du tout rattaché à ça et il était contre ça. Mais je pense qu'Antoine, lui, carrément, s'il est parti faire autre chose, alors que Nino, ça l'a pas complètement bloqué et empêché de continuer à avoir une veine créatrice et de pouvoir justement continuer à fouiner, à chercher et à faire toute une série d'albums très, très particulières et très réussies.
Alors justement, ces albums donc, qui à l'époque ont eu peu de succès, enfin, à la fois en comparaison bien entendu avec ceux du moment du Sud, mais également dans l'absolu. Est-ce que justement, dans un système aujourd'hui qui est plus ouvert en termes de diffusion, en termes de canaux, enfin, est-ce qu'il y a, d'après vous, tout le potentiel en fait, pour une sorte de Nino Ferrer revival en fait, sur cette partie mésestimée en fait,
Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Et puis on le ressent fortement quoi, dans les demandes, dans les reprises, dans les nouvelles versions, dans les covers de jeunes groupes, de morceaux de morceaux complètement inconnus en fait de Nino. C'est extrêmement intéressant et agréable de voir que cette nouvelle société dans laquelle on est, ces médias, ces moyens de communication, cette ouverture favorise et ouvre, enfin, développe ça. C'est génial.
De vraies redécouvertes.
Complètement.
Les générations de nouveaux mélomanes tout jeunes tombent et deviennent vraiment complètement fous des albums justement qui à l'époque n'ont pas eu leur chance de voir le jour. Et aujourd'hui, ils existent par ces nouvelles générations de jeunes spectateurs.
Qui découvrent enfin tous ces morceaux qui passent jamais sur les radios normales. Voilà, sur Nostalgie où c'est le Sud, enfin bon, c'est bien aussi, enfin c'est un patrimoine qui est préservé. Enfin, on n'est pas en train de cracher dessus évidemment parce que Nino d'ailleurs, il a quand même fait, il a tué Mirza à un moment, enfin dans une des chansons.
Du coup, j'espère que cette exposition sera une belle occasion effectivement de découvrir donc les facettes les moins connues, celles qui sont en train justement de Et en tout cas, moi, je l'espère, d'être redécouverte, de donner l'expression deuxième vie est peut-être un peu malheureuse, mais en tout cas, un retour de découverte de la complexité de quelqu'un qui, même s'il l'a regretté presque jusqu'au bout, dans les confidences qu'il disait à Richard Bennett, qui ne sont pas un secret, encore une fois, et je cite en substance, tu te rends compte, j'ai écrit, composé et produit près de 200 chansons, les gens n'en connaissent que 3. Alors 3, effectivement, il y a peut-être une part de modestie quand même, un peu exagérée, parce que je pense qu'on est plutôt effectivement du côté de 7 ou 10, hein, qui sont vraiment des tubes, en France et ailleurs, que tout le monde connaît, même 40 ans après. Donc cette exposition, elle est visible tous les jours donc chez Ground Control. Et on va écouter donc une des chansons les plus subversives de Nino Ferrer. C'est en italien, un moment charnière, et effectivement sur une mélodie qui, comme le rappelait Pierre Ferrari, produira ensuite l'un de ses plus grands tubes également. Donc une chanson qui, elle, passera sans problème en radio en France, n'ayant plus tout à fait le même contenu de paroles qu'en Italie.
Alors, on a rencontré un Italien, Federico, qui a fait un spectacle sur Nino, autour de Nino, qui, lui, soutient la théorie qu'en fait, Nino a été blacklisté par le Vatican. Et donc, qu'il a été vraiment la bête noire, et donc c'est pour ça qu'il a quitté l'Italie.
Oui, donc en punition de cette chanson.
Ouais, absolument.
Eh bien, on va se quitter donc avec Povero Cristo, pauvre Christ, si je ne me trompe pas.
Seul comme un chien sur la colline, dans la traduction du texte.
Voilà.
Gesù Cristo sulla montagna, solo come un cane, solo con noi. Ripeti un po' le tue parole, non vorremmo sbagliare. La carità, lasciate stare gli onori, i soldi buttateli fuori.
siamo i soli distributori autorizzati.
Vous êtes bien sur Radio Ground Control.
Alors, on continue le Ground Floor Café. On revient donc après avoir ce détour par une littérature un peu différente, puisqu'on parlait de Nino Ferrer, de ses textes, de ses musiques et de sa peinture, à l'occasion de la belle exposition qui démarre aujourd'hui à Ground Control. On revient à ce qu'il est convenu d'appeler la rentrée littéraire. On a déjà dit la dernière fois que la rentrée littéraire, ce phénomène malgré tout très français, est parfois un peu déstabilisant pour les lecteurs et les lectrices et les libraires. Néanmoins, on vous a parlé donc de 8 titres qui nous ont particulièrement plu la semaine dernière, et là je vais vous parler de 4 autres textes. Le premier est un essai en réalité, un essai d'Alexandre Matisse, paru aux éditions Playlist Society. Quand je dis paru, c'est un début de langage, puisqu'en fait il paraît la semaine prochaine. Il s'appelle « Un monde parfait selon Ghibli ». C'est un superbe texte, assez court, très dense, dans cette collection qu'ont développé les éditions Playlist Society, que j'appellerais une vulgarisation intelligente et de belle qualité. Et Alexandre Matisse donc, nous parle du studio Ghibli, d'Hayao Miyazaki et des autres créateurs du studio, de ses équipes, dégage les thèmes en fait, que l'on connaît, qui irriguent et qui lient entre eux, qui enchantent des films que tout le monde connaît, ou presque, tel que Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, Nausicaa, Fille du Vent, ou encore, bien entendu, Porco Rosso et ses hydravions, qui, rappelons-le, ont donné leur nom au studio Ghibli, puisque c'était le nom d'un hydravion italien. Alexandre Matisse fait ça avec beaucoup d'érudition, bien entendu, mais à aucun moment il ne nous épuise sous le poids de son érudition. Il reste alerte, il reste vif. Il nous apprend des choses qu'on ne savait pas, même quand on s'intéresse de près à ses films et aux dessins d'animation japonais. Il tisse des liens parfois difficiles à percevoir et qu'il est allé dénicher. C'est vraiment passionnant, ça se lit vite et ça donne aussi envie de revoir quasiment tous les films du studio Ghibli, ce qui est bien agréable. Donc voilà, Alexandre Matisse, Un monde parfait selon Ghibli, à partir de la semaine prochaine chez Playlist Society. Le deuxième texte dont je souhaitais vous parler ce soir, c'est un roman qui s'appelle Black Bottom de Philippe Curval, paru à La Volte. Alors Philippe Curval, c'est un personnage assez extraordinaire. C'est quelqu'un qui fait figure à bien des égards de patriarche de la science-fiction française d'aujourd'hui, puisque ses premiers grands romans célébrés ayant gagné tous les prix ou presque remontent au milieu des années 1970, avec un roman par exemple comme Cette chère humanité. C'est quelqu'un qui ensuite a toujours écrit, a écrit des nouvelles, des centaines de nouvelles, a écrit des romans, a exploré presque tout ce qu'on peut explorer en fait dans ce genre à facettes multiples qu'est la science-fiction, quand on l'utilise justement d'une manière qui n'est pas de reproduire toujours un peu du même. Philippe Curval donc est passionnant, et ce tout dernier roman en date est particulièrement bizarre, il faut bien le dire, puisque c'est un roman qui parle peu de fiction, même si la fiction est évidemment très présente dans les interstices, qui parle d'art contemporain et de Biennale de Venise, et qui, à partir de ça, nous emmène dans un tourbillon très farceur, très drôle, tragique aussi par moments, donc on pourrait parler d'une comédie dramatique. C'est enlevé à 100 à l'heure. Il y a des rebondissements totalement inattendus, donc c'est vraiment un roman d'aventure. Et sous l'aventure, il y a une réflexion sidérante sur ce que fait l'art contemporain, ce qu'il ne fait pas, ce que fait l'argent dans l'art contemporain et la manière dont ça affecte aussi, à bien des égards, notre manière d'appréhender la réalité, d'appréhender le monde. Donc c'est très intelligent, c'est passionnant et c'est drôle. Je vous encourage à lire absolument Black Bottom de Philippe Curval aux éditions La Volte.
Grande Fleur Café. Hugues Robert.
Alors le troisième texte, il faut avouer qu'en ce qui me concerne, je l'attendais depuis longtemps. Je vous ai parlé il y a déjà quelques mois de Ian Sinclair, de son London Orbital, ce texte mythique de 1992, où Ian Sinclair, accompagné chaque jour ou chaque semaine d'amis différents, d'autres artistes, avait entrepris de faire le tour de l'autoroute circulaire en fait, de Londres, à pied, donc quelques centaines de kilomètres, petit morceau par petit morceau, pour nous faire découvrir, pour partager avec la lectrice ou le lecteur donc dans un exercice qu'on appelle, et on en a déjà parlé sur cette antenne, psychogéographique, à la fois l'histoire, le sens caché, les figures qui sont attachées à un terrain, à un terroir et à des modifications urbaines encore en cours. Il a poursuivi ce travail donc avec un deuxième ouvrage qui est paru il y a 2 ans en France qui s'appelle London Overground. Et là, est paru ces jours-ci aux éditions Inculte Dernière Marge, Quitter Londres, qui est en quelque sorte le troisième et dernier volet d'une trilogie, mais d'une trilogie souple. Hein. Chaque ouvrage peut se lire totalement indépendamment. Et Quitter Londres, c'est un petit peu le bilan à date finalement de toutes ces mutations urbaines conduites sous l'effet de l'argent, de la mode, des mutations de mode de vie, des interpénétrations entre la politique, le business et les modes de vie urbains contemporains. La manière dont finalement ça achève Londres, ça achève un travail commencé il y a des dizaines d'années. Et il le fait avec toujours ce mélange absolument singulier de profonde culture, d'ironie, de sens de l'observation, toutes ces choses qu'il voit dans la rue puisqu'il se déplace à pied, un peu en vélo. Il y a des pages absolument savoureuses sur l'obligation du vélo. Bon, en plus, ce n'est pas un secret que Ian Sinclair déteste Boris Johnson. Et Boris Johnson est un apôtre du vélo comme on en fait peu en Europe occidentale. Donc ça excite la verve de Ian Sinclair sur ce sujet-là, mais sur bien d'autres. C'est délectable parce que ça fourmille d'anecdotes, ça fourmille de choses. Ça se passe à Londres, mais bien entendu, ça interroge n'importe quelle lectrice ou lecteur qui se pique d'observer un peu ce qui se passe dans la grande ville ou dans la métropole. Et je pense que pour les personnes qui aiment Ground Control, c'est un texte qu'il faut absolument, dans lequel il faut absolument se plonger. Donc « Quitter Londres » de Ian Sinclair aux éditions Inculte Dernière Marge.
Vous êtes bien sur Radio Ground Control.
Et pour finir, on va se tourner vers une autre très grande métropole mondiale, Los Angeles. Los Angeles, il y a eu, qui a ses grands auteurs, bien entendu, et des gens qui l'ont analysé, décortiqué dans la profondeur historique. Et on pense notamment à Mike Davis avec sa fabuleuse City of Quartz, qui date de 1999, mais qui a été rééditée, augmentée et complétée en 2006. L'auteur dont je souhaite vous parler pour conclure est un peu différent. Larry Foundation est avant tout un éducateur de terrain, un médiateur en fait de rue et d'éducation qui a travaillé et qui travaille encore donc depuis 25 ans dans les rues des quartiers que par pudeur et par euphémisme on appellera difficiles en fait de Los Angeles, donc Compton, Watts, South Los Angeles, donc des quartiers où les gens un petit peu nantis ne s'aventureraient pour rien au monde. Donc c'est un environnement qu'il connaît bien et depuis maintenant presque 20 ans, par recueils successifs, la Reef Foundation est en train de nous dessiner une sorte de saga des recoins où, gros, il les laissait pour compte de Los Angeles. Donc c'est brutal, c'est violent, c'est des enchaînements de flash. Hein. Parfois ça fait quelques lignes, parfois ça fait quelques pages. Donc son nouveau recueil vient de paraître aux éditions Tusitala, s'appelle « Les martyrs et les saints ». C'est intense, c'est brutal. C'est poétique d'une façon souvent étonnante. Ça fait apparaître un phénomène nouveau dans justement ce qu'on pourrait appeler ces bas-fonds de Los Angeles où il n'y a pas que de l'horreur. Il y en a beaucoup, mais il y a aussi des choses très belles, très inattendues parfois. Le phénomène qui est nouveau et qui donc irrigue ce nouveau recueil, Les martyrs et les saints, c'est l'arrivée des vétérans déclassés, en fait, non plus du Vietnam, mais d'Irak et d'Afghanistan. Et puis, pas seulement de vétérans déclassés traumatisés, mais aussi de gens qui ont passé quelques années dans l'armée, qui ont pris parfois des bien mauvaises habitudes en Irak, notamment au plan de la violence exercée vis-à-vis des civils. Et Larry Foundation nous décrit, donc nous met en scène un fourmillement d'anecdotes, de situations, avec sa façon d'écrire, toujours aussi incisive, toujours aussi brutale et néanmoins belle, on peut le dire. Donc voilà, Larry Foundation, Les martyrs et les saints aux éditions Tusitala. Et c'est avec lui qu'on va quitter ce Ground Control Café. À la semaine prochaine, à bientôt.
Ground Control.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.